Eh bien, bonjour à tous. Maintenant que notre traductrice pour Leandro Avalos-Blachat a fait la bise à tout le monde, donc nous, nous sommes les privilégiés, nous allons pouvoir commencer cette table ronde qui s'intitule « Zombie par-ci, zombie par-là, salut les monstres », avec comme intervenant Leandro Avalos-Blachat, qui a écrit Beraza Chussets, dans lequel on trouve en particulier une zombie extrêmement curieuse et inhabituelle. À côté de moi, Maxime Coulombe, qui a réfléchi sur le sujet de la zombification et donc qui a écrit Petite philosophie du zombie. Julien Bétan, qui lui est en quelque sorte un historien de la zombification avec son livre qui s'intitule Zombie. Olivier Perru, que l'on connaît, que l'on connaissait beaucoup pour ses romans de fantasy, mais qui est aussi le scénariste d'une trilogie en BD qui s'intitule elle aussi Zombie. Et Fabien Clavel, qui a écrit l'Évangile cannibale sur aussi une autre encore variété d'invasion zombie. Et donc, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Julien Bétan, parce que en fait, les zombies sont des monstres, effectivement, et ils sont partout. C'est une invasion réussie, Julien Bétan.
Visiblement, ouais. C'est en tout cas le constat duquel on est parti quand on a commencé à travailler avec Raphaël Colson sur le sujet. C'était dans la deuxième partie des années 2000. Et effectivement, on s'apercevait que le zombie était partout. Au cinéma, dans des productions à gros budget, dans la bande dessinée, Walking Dead, Marvel Zombie, il n'y avait pas encore la série télé à l'époque. Dans le jeu vidéo, sur Internet, dans les mondes virtuels, et puis y compris dans la publicité, c'était vraiment quelque chose qui est une figure de l'imaginaire, un monstre qui était devenu très grand public. Et puis ben, la question qu'on s'est posée justement, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu en arriver là, parce que c'est vrai que c'est pas très glamour un zombie. Hein. On se demande pourquoi une marque, je sais pas, il y avait des marques de voitures, il y avait Eastpak, les marques de sacs qui faisaient des pubs avec des zombies. On se dit pourquoi un cadavre en putréfaction va être utilisé pour faire du marketing et pour vendre des produits, quoi. Comment on peut te donner envie avec des zombies? Et puis cette omniprésence nous posait plein de questions. Donc on est parti à la recherche. On a pris le zombie comme une épidémie, comme le disait Jean-Luc, et on a essayé de trouver le patient zéro. On s'est dit, mais d'où c'est parti cette épidémie zombie? Donc on est remonté dans l'histoire, on est passé par Romero, qui est vraiment la pierre angulaire à la fin des années 60. Puis on a continué à fouiller, et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas retrouver le premier zombie, on ne pouvait pas retrouver le patient zéro. On avait des premières occurrences dès les années 30 dans l'imaginaire occidental. Mais ensuite, ça se perdait un petit peu dans les limbes. Ben, pour la simple raison que le zombie, contrairement à tous les autres monstres classiques, les momies, les vampires, etc., a une origine à la fois exogène, hein, c'est pas quelque chose qui vient du terreau folklorique occidental, puisque ça vient d'Haïti. Et puis ben, le zombie n'a pas été ancré dans l'imaginaire par des textes, ça vient d'une tradition haïtienne, donc orale. Et si je redéroule dans l'autre sens, notre hypothèse a été de dire que c'est justement cette origine étrangère et non fixée par écrit qui lui a permis, dans le temps et dans l'espace, de prendre des formes très diverses et qui a permis à tous les auteurs, dans tous les supports confondus, d'y mettre un petit peu leurs préoccupations propres et de le transformer au cours du temps. Et ce qui fait que c'est une figure très libre par rapport aux autres monstres. Si on prend le vampire, il a fallu attendre la fin des années 80 pour le sortir de sa tradition gothique, pour commencer à lui mettre des blousons en cuir et pour arriver à l'évolution qu'on connaît aujourd'hui où ça devient une figure aimable, quoi.
Mais je me souviens avoir lu, parce que le zombie est quand même dans l'imaginaire occidental une figure relativement récente, qu'en fait les premiers zombies apparaissent une fois que les Américains sont arrivés à Haïti, donc dans les années 20, quand ils ont transformé Haïti en une sorte de protectorat, et que c'est à partir de là et que les premières figures vraiment de zombies, c'est d'abord au cinéma.
Alors c'est d'abord au cinéma, ça part d'un livre. Effectivement, les Américains vont occuper militairement à partir de 1915 l'île d'Haïti pour tout un tas de raisons qui ressemblent aux justifications de leurs interventions actuelles à l'étranger. c'est faut voir Haïti à l'époque comme Cuba quelques années plus tard. Hein, c'est pas très loin de la pointe de la Floride, c'est un millier de kilomètres de la pointe de la Floride. Donc c'est vraiment une décision géopolitique plus que, qu'autre chose. Ça a été Haïti, c'est une histoire particulière aussi. C'est une des premières terres découvertes par Colomb. C'est chargé déjà dans l'imaginaire, même quand on évoque Haïti aujourd'hui, c'est une terre un petit peu ambiguë où le vaudou, la sorcellerie, tout ça, ça se mélange avec aussi toutes les représentations qu'ont pu avoir les Occidentaux dans l'histoire sur l'Afrique, sur le mythe du sauvage, etc. Et puis ensuite, ça a été aussi la première nation noire à devenir autonome, des esclaves qui font une révolution pas loin des États-Unis alors qu'on est encore dans un système esclavagiste. Et ben, ça fait un petit peu peur. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, au début du XXe siècle, les Américains vont faire une occupation militaire. Du coup, tout un tas d'Américains vont se rendre, en plus des Marines, pour administrer l'île, pour faire du commerce. Et puis, il va y avoir un des premiers proto-ethnologues, l'anthropologie n'existe pas encore, mais une espèce de voyageur, journaliste, qui s'appelle William Seabrook, et qui va se rendre sur l'île sur la base de rumeurs, comme quoi des morts travailleraient dans les champs de canne. Lui, ça l'intéresse, c'est un aventurier comme ça, qui est déjà parti en Afrique, voir des cannibales, etc., qui ramène des bouquins très sensationnalistes aux États-Unis et qui marchent très bien. Et il va mener une enquête sur le terrain et il finit, d'après lui, hein, d'après ce qu'il raconte dans son livre L'île magique, que vous pouvez encore trouver en français chez Phébus, il raconte sa rencontre avec des zombies qui travaillent dans un champ et il les décrit vraiment comme on connaît le zombie classique, hein, c'est-à-dire des gens complètement vidés, au regard vide, qui travaillent mécaniquement, hein, puisque c'est concomitant à l'apparition du robot dans l'imaginaire. Donc il les compare vraiment à un semblant de vie mécanique. Et puis ben, ce témoignage allié à d'autres, il décrit d'autres cérémonies vaudou, va marcher énormément, le bouquin cartonne et va être ensuite adapté en pièce de théâtre, puis en film, effectivement, en 1931, sous le nom de White Zombie, les morts vivants des frères Halperin. Et à partir de là, ça SM dans l'action.
Avec Bela Lugosi, si
avec Bela Lugosi, oui, qui venait de tourner dans Dracula l'année précédente. Il y a d'ailleurs des plans qui sont extraits de Dracula, il y a des décors de Dracula, c'est Jack Pierce qui fait les maquillages.
Alors, Maxime Coulombe, vous allez pouvoir nous expliquer, en fait, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet, pourquoi cette invasion a-t-elle réussi ?
Pourquoi l'invasion a réussi ? C'est-à-dire que le zombie nous fascine parce que, dans une certaine mesure, c'est une figure qui a été capable de s'adapter à nos peurs. C'est une figure qui a été capable de s'adapter à notre société occidentale. Comme il vient d'être extrêmement bien décrit, le zombie est à l'origine une figure haïtienne, mais son arrivée sur le territoire américain va impliquer une transformation du motif pour lui faire coller, dans une certaine mesure, à l'imaginaire occidental. Le zombie est une figure exacerbée de l'esclavage, de l'esclave. C'est un esclave qui a perdu toute conscience, mais c'est un état temporaire. C'est-à-dire que dans la mesure où on arrête d'administrer la drogue en question aux zombies, il pourra redevenir humain. Romero, dans les années 60, à la fin des années 60, va transformer la figure pour en faire un état permanent et pour le rapprocher, je dirais, d'une idée d'une sanction ou d'une catastrophe. Hein. Tous les morts, c'est ce que va dire Romero, tous les morts vont revenir à la vie. Les gens qui sont décédés dans les salons funéraires, etc., vont tous revenir à la vie et vont se mettre à marcher parmi les vivants, comme une sorte d'apocalypse ou de résurrection où tous les morts reviendraient à la vie. Donc, dans une certaine mesure, la figure de Romero colle assez bien à une Amérique encore croyante, encore catholique, encore très près de la religion. Et le zombie des années 2000, c'est un zombie où on n'a plus cette idée que tous les morts reviennent à la vie, mais on a plutôt l'idée d'une épidémie. C'est-à-dire qu'il y a une source, il y a le fameux patient zéro, c'est-à-dire qu'il y a une source, et les humains sont probablement responsables de ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu une manipulation génétique, il y a eu un accident, etc. Et pensez par exemple à Resident Evil ou penser à 28 jours plus tard ou penser à World War Z. Dans les trois cas, l'homme est responsable de l'épidémie de zombies, même si ma mémoire est bonne, dans Walking Dead, c'est encore la même chose. Et donc, l'homme est responsable, et donc l'homme est responsable de sa propre destruction. C'est une idée qu'on ne trouve pas chez Romero, ou en tout cas pas du tout formulée de la même façon. Et on se rapproche d'un zombie qui, dans une certaine mesure, va être la figure de notre propre destruction, qui va incarner notre propre responsabilité, et qui, dans une certaine mesure, va rendre compte de notre propre pessimisme, c'est-à-dire le sentiment que, désormais, on est condamné à se détruire. La médecine, par exemple, chez Romero, apparaît dans La nuit des morts vivants, dans le premier Romero, comme capable d'expliquer ce qui est en train de se produire et apparaît encore comme une autorité sûre, figure qui va complètement disparaître dans 28 jours plus tard. Au contraire, le scientifique, c'est quelqu'un en qui il faut, qu'il faut craindre puisqu'il est responsable de l'épidémie. Et donc, la confiance dans l'humanité va s'effriter et le cinéma de zombies l'incarne, à mon avis, parfaitement. Il est en adéquation avec certaines de nos peurs, certaines angoisses de notre société contemporaine. Donc, l'épidémie, la crainte des recherches médicales, ce discours de la fin du monde, etc., que le cinéma de zombies mène à son aboutissement.
Donc, en quelque sorte, le zombie est un peu une métaphore de nos angoisses face à une sorte aussi de décomposition de notre société.
Oui, c'est-à-dire que le zombie vient mettre fin, dans une certaine mesure, à notre société. La société qui est décrite par le cinéma de zombies, c'est une société qui ressemble à la nôtre. Hein. Elle est faite pour être exactement à peu de choses près comme la nôtre. C'est une société qui arrive presque à sa fin et les zombies viennent la renverser, viennent la renverser et peut-être ouvrir à une autre société. Walking Dead évoque cette idée-là, mais Dawn of the Dead aussi, si ma mémoire est bonne, qui se termine en hélicoptère. Donc cette idée d'une humanité qui serait pessimiste et qui serait décimée par les zombies, et à la fois l'idée que le zombie, c'est peut-être évidemment nous. Le zombie, c'est une créature qui est morte et dont une toute petite partie du cerveau s'est réanimée, hein, la partie la plus profonde, la plus primitive. Ça veut donc dire que dans cette conception du monde, l'être humain est fondamentalement une créature cruelle, une créature méchante, et c'est la civilisation, ou en tout cas le vernis de la civilisation, qui nous protège de notre propre cruauté, de notre propre violence. Et ben, le zombie, ce serait un être qui aurait perdu ce vernis-là et qui ne serait ramené qu'à ses propres pulsions, une créature donc terrible parce qu'elle décimerait l'humanité. Mais dire ça, c'est un peu ce que je disais hier, dire ça, c'est au fond croire que fondamentalement, l'être humain, il est méchant ou il est cruel ou il est violent. Et c'est un petit peu le discours que tiennent les masses médias lorsqu'elles nous présentent les faits divers. Hein, on a l'impression que si on laissait l'humanité à elle-même, ça ne serait pas très long que tous serait emporté. Et ce discours-là est d'un pessimisme extraordinaire. D'abord, il est faux philosophiquement, mais il est d'un pessimisme extraordinaire. Et à mon avis, encore une fois, c'est un révélateur de certains discours qui ont cours dans notre société actuelle.
D'accord. Alors, justement, on va étudier, vous avez commencé à voir, on va voir qu'il y a plusieurs, finalement, paradoxalement, il y a quand même plusieurs variétés de zombies. Alors, il y a les zombies qu'on imagine toujours ceux qui avancent un peu en titubant et qui peuvent dans certains cas crier Brain, Brain pendant qu'ils marchent. C'est ceux qu'on trouve par exemple chez vous, Olivier Perru, dans votre trilogie zombie.
Entre autres, mais il y a aussi des zombies qui courent. Parce que, alors moi je ne vais pas me lancer dans des super débats philosophiques parce que là moi tu m'as scotché. Toi aussi, hein. Et je vais plutôt aborder le côté cool des zombies. Et donc dans ma série en tout cas, quand on a commencé à travailler dessus avec Sofiane Chollet, le dessinateur, on est tous les deux des amoureux du genre, on a regardé les Romero quand on était tout petit, ça nous a marqué profondément. Et quand on a commencé à travailler, on s'est dit sur quel type de zombies on travaille. Parce qu'il y a des fois une vraie guéguerre entre les fans de zombies qui marchent, les fans de zombies qui courent, et il vaut mieux pas être au milieu s'ils sont pas d'accord. Nous, on est amoureux du genre et on aime autant les zombies qui marchent et donc qui sont des milliers à deux à l'heure et c'est la masse qui représente un danger. Et on adore aussi les zombies qui courent où quelques zombies dans un immeuble suffisent pour vous faire changer de camp. Et dans notre série, donc, on s'est dit on veut les deux. Alors, on a une explication logique sur le fait que certains zombies courent et d'autres marchent. Je ne peux pas vous la dire parce qu'on ne l'a pas encore révélé dans la série. Et si je, voilà, mon dessinateur va me tuer si j'en parle. Mais on a un super truc que vous apprendrez plus tard. Et ce qui est bien, c'est que ça permet des variations. C'est-à-dire que les zombies qui marchent, bah, vous connaissez tous les films, il faut fuir le plus vite possible. Ou vous pouvez vous contenter de les fuir en marchant. Il faut être astucieux, trouver les bons coins pour leur échapper. Et les zombies qui courent permettent des effets de stress. Donc là, c'est d'un point de vue cinématographique. Quand vous avez trois enragés qui vous courent après, bah, vous cadrez différemment, vous faites monter la pression. Et là, donc, du coup, d'un point de vue narratif et technique, c'est hyper intéressant d'avoir les deux types de zombies. Et ça permet de renouveler le genre. Enfin, Danny Boyle avec 28 jours plus tard. Le zombie, donc, depuis 1930, tu disais, donc, même si c'est une figure qui a évolué, parce que du coup, il n'était pas écrit strictement, donc c'est, plein d'auteurs se sont appropriés la créature et l'ont fait avancer au fil du siècle dans des films ou des romans. Il n'y a pas eu, je trouve, de révolution sur les récits de zombies, les histoires de zombies. Par contre, Danny Boyle, avec son 28 jours plus tard, il a eu une idée, mais bête comme... Enfin, pas bête, elle est géniale, son idée, mais tellement simple qu'elle en devient évidente. Et il s'est dit, on va faire un film de zombies et des zombies qui courent. Et au début, je me suis dit, bah, c'est bizarre et tout ça. Et en fait, ça marche super bien. Et pour moi, c'est sur, on va dire, les dernières années, c'est la plus grande idée qu'il y ait eu, en fait, pour rajeunir le zombie. Et c'est inévitable. Maintenant, je ne me vois pas, moi, écrire un film de zombies, enfin, ou écrire une BD, ou travailler sur une histoire de zombies, sans tenir compte de ça, qui est un ingrédient énorme et qui, du coup, emmène les histoires de zombies un cran plus loin. Donc, en tout cas, voilà, je ne peux pas trancher entre ça court ou ça marche. J'aime les deux.
Chez vous, Fabien Clavel, les zombies marchent. Et Dieu merci pour vos personnages qui essayent de survivre, parce que même sinon, ils ne sont pas capables de se déplacer tellement vite.
Oui, c'est ça. Comme
si je peux me permettre, il y a Danny Boyle qui a eu une grande idée en faisant courir ses zombies. Et il y a Fabien, qui est le deuxième mec qui a eu une super idée sur l'histoire des zombies. Je te laisse en parler.
D'accord, je te remercie. Mais avec une présentation comme ça, je n'ai pas la pression en plus.
Donc effectivement, moi, l'idée de départ, c'était de confronter les zombies, de confronter des vieux à des zombies, en leur donnant les mêmes caractéristiques. Donc effectivement, si les zombies se mettent à courir, comme chez toi par exemple, mon histoire, elle se termine au bout de trois pages. Ils sont tous bouffés et c'est fini. Bon. Et effectivement, il n'y a pas l'idée de la lenteur, de la dégradation du corps, qui est plus traitée avec la lenteur du zombie, puisque il ne fonctionne pas bien. Celui qui court, il a beau être en dysfonctionnement, il arrive quand même à produire un effort, il fait penser à un athlète, etc. Alors que là, moi, c'est vraiment le corps complètement à l'abandon qui m'intéressait de traiter. Et d'ailleurs, aussi un abandon social, puisque le début se passe dans une maison de retraite. Donc il y a les vieux dont le corps lâche complètement, que ce soit au niveau de la tête ou du reste. Et de l'autre côté, effectivement, il y a le lien social qui se dissout complètement parce qu'ils sont vraiment traités complètement à la marge. L'endroit où ils sont s'appelle les mûriers, mais ils l'ont rebaptisé le mouroir. Et c'est un mouroir, c'est-à-dire vraiment ils sont mis dans le coin pour crever sans qu'on les voit trop. C'est d'ailleurs ce qui va les sauver d'une certaine manière. Sauf que les zombies arrivent derrière. Bon, du coup, c'est pas de bol non plus. Voilà, mais donc moi j'en suis resté à un zombie réactionnaire. Je revendique la réaction de mes zombies, notamment parce que mes héros sont des vieux et ce sont des gens qui justement en 68 avaient 18 ans et qui ont été confrontés plutôt aux zombies romériens. Donc il fallait qu'ils continuent à être confrontés à ça parce qu'il y a une logique et puis c'est plus une figure... comme mon narrateur, on n'arrive pas vraiment à savoir si il est complètement fou ou pas. On ne sait pas, il y a un doute. Comme c'est lui qui raconte tout, on n'est pas sûr de lui faire confiance et de devoir lui faire confiance. Donc on est forcé de lui accorder un peu de crédit au moins. Et donc c'est une figure de l'imaginaire qu'il peut avoir. Le narrateur, qui donc Matt Sirois, qui est donc qui a 90 balais au début et qui déteste l'humanité, lui, dans son imaginaire, de toute façon, il peut que penser à des zombies qui marchent. Lui, il a pas vu les films de Danny Boyle. Il n'a pas lu les BD d'Olivier Perru. Voilà.
Et c'est ce qui permet ensuite de faire un road movie épique à 5 à l'heure pour traverser une partie de Paris en fauteuil roulant.
C'est la horde sauvage en fauteuil roulant, voilà.
Léandro Avalo-Blachas, vous, vos, Vos zombies sont tout à fait particuliers. D'abord, l'héroïne, si j'ose dire, Trash, est une zombie, mais c'est une zombie qui a encore un cerveau en état de fonctionner.
Sí, es no solo es casi humana, sino que es más humana que todos los otros humanos en la novela. En la novela aparecen dos tipos de zombies.
En la novela aparecen dos. No funciona. Ah, perdón. Te lo repito. Merci. Donc, dans le roman, il apparaissent deux types de zombies en français.
Bueno, decía que Trash no solo quizás es más humana, no solo es casi humana, sino que es casi más humana que todos los otros de la novela.
Oui, oui, donc. C'est Jalloy a traduit ça. Et donc Trash est beaucoup plus humaine. Non seulement elle est humaine, mais elle est beaucoup plus humaine que tous les autres personnages du roman.
Et que sí tiene que ver con un tipo de zombies también activos. Ella, yo la tomé de la película The Return of the Living Dead.
Bien sûr, elle fait référence à des zombies beaucoup plus actifs. Et je pense au film Retour des morts vivants.
Uno de los aspectos que me gustaban de los zombies. Es alguna en esa energía que tienen en algunas representaciones que tienen que ver con la pulsión que los mueve, una pulsión desenfrenada generalmente.
Donc moi ce qui m'intéressait c'est l'énergie qu'ils véhiculent à partir de cette passion déchaînée qu'ils ont en eux.
En la película Christian F. Que hay un poco una afiliación, un parentesco entre la gente que consume heroína en una discoteca y la proyección de la película de Romero en la misma escena.
Oui, dans le film Christian F. 13 ans prostituée, il y a un parallélisme entre les gens qui consomment de l'héroïne et le film que l'on voit à l'écran, le film de Romero qui sont en train de projeter.
Y en esa afiliación en la figura del drogadicto con el zombie.
Dans cette filiation entre la figure du drogué et le zombie.
Veía muy presente ese mismo desenfreno de los muertos por morder al otro y a mí siempre me había parecido Naked Lunch de Burroughs casi como una novela de zombie narrada en primera persona. Que hay algo que me interesa del zombie, que es el desenfreno y la pulsión que lo mueve, y que la veía muy cercano al desenfreno y a la pulsión que mueve a veces al drogadicto.
Oui, donc ce qui l'intéresse là, c'est vraiment la pulsion et ce manque de contrôle qui meut à la fois, qui permet aux drogués d'agir et aux zombies aussi.
Y que por eso muchas veces. Yo me daba la impresión de que Naked Lunch de Burroughs era casi una escritura de la novela de zombie en primera persona.
Donc j'avais souvent l'impression que Naked Lunch était l'écriture en première personne d'un roman de zombie.
Y en cuanto a lo que decían Maxime y Julien de la libertad en la figura del zombie, de cómo se va reencarnando en las distintas sociedades, en las distintas representaciones.
Et par rapport à ce que disaient Maxime et Julien, c'est ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il se réincarne dans les différentes sociétés.
En Massachusetts, hay muchos de los zombies que tienen que ver con chicos que son víctimas de la droga.
Donc, dans Massachusetts, cela a beaucoup à voir avec des jeunes victimes de la drogue.
Y que se mueven con este desenfreno tanto de la droga como del aspecto más caníbal del zombie.
Donc, et qui agissent avec ce manque de contrôle autant guidé par la drogue, provoqué par la drogue, que par cet aspect du zombie.
Oui, parce qu'en fait, alors Massachusetts, quelque part, c'est un livre qui véhicule un message politique fort, parce qu'en fait, il y a une assimilation entre les zombies et les pauvres d'un côté, et qui se révoltent contre l'élite, entre guillemets, de la ville, les gens qui sont riches et qui sont en même temps des politiciens totalement pourris et sans scrupules.
Que toda la, toda la novela, tanto los zombies como los personajes, creo que están, los zombies como los humanos, están movidos por el aspecto de lo que era Buenos Aires en ese momento.
Donc tous les personnages, autant les zombies que les êtres humains, correspondent à la situation qu'il y avait à Buenos Aires à ce moment-là.
Había en realidad un desenfreno generalizado en todos.
Donc il y avait un manque de contrôle et un déchaînement généralisé dans tous les domaines.
Porque era una crisis que había afectado tanto a pobres como a ricos y a la clase media.
Parce que la crise de 2001, donc c'est une crise qui avait affecté autant les pauvres que les riches et les classes moyennes.
Por ejemplo, bueno, la gente que tenía los ahorros en los bancos no podía sacar, nadie podía sacar la plata del banco.
Donc par exemple, les gens qui avaient leurs économies à la banque ne pouvaient pas les retirer et de toute façon, personne ne pouvait retirer son argent des banques.
Entonces había situaciones violentas en todos los sentidos, gente que cortaba las calles.
Donc il y avait des situations très violentes dans tous les sens du terme, des gens qui barraient les routes.
Gente que iba a destruir los bancos, dispuesta a casi inmolarse.
Ou des gens qui allaient détruire les banques, des gens qui étaient prêts à s'immoler devant les banques.
Y incluso casi un deseo que estuvo a punto de explotar, de matar a todos los políticos también.
Et jusqu'au point, jusqu'à arriver au désir de presque vouloir tuer tous les politiques, mais au désir de passer à l'action, de vouloir tuer tous les politiques.
Era un clima de catástrofe general del que parecía que no se podía salir y donde la máxima era casi empezar de cero, que se fuera toda la clase política y empezar algo nuevo.
Donc c'était un climat tel de catastrophe que en fait la seule solution c'était peut-être de commencer à zéro et donc d'éliminer tous les politiques.
Igual no se fue ninguno de todos ellos.
Et bon, il y en a aucun qui est parti.
Donc en fait là ce que vous avez évoqué finalement tous déjà, il me semble qu'en fait finalement certes les zombies sont des monstres, mais est-ce que finalement on ne pourrait pas dire que les vrais monstres, c'est nous, les humains normaux, parce que d'une part, ce qui est toujours frappant dans tous les romans ou les films de zombies, c'est que il y a une déshumanisation totale du zombie. On a tendance à oublier que c'est à la base, c'est un être humain mort et qui reprend. Donc déjà il y a ça, et puis ensuite on voit, c'est ce qui permet aussi sans doute aux survivants entre guillemets normaux de pouvoir survivre en étant prêts à toutes les horreurs et à toutes les cruautés possibles. Maxime Coulombe, alors vous qui avez beaucoup réfléchi sur cette philosophie générale, donc vous aviez commencé à l'aborder tout à l'heure, pourriez-vous élaborer sur cela.
Oui, le zombie est probablement, et ça explique en partie son succès dans les jeux vidéo, on a parlé beaucoup de romans, c'est normal, mais c'est une figure qui est aussi omniprésente dans les jeux vidéo, pour une raison évidente, au cinéma aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est la créature la plus politiquement correcte que l'on peut tuer. C'est-à-dire que c'est la chose qui se rapproche le plus d'un être humain, et en même temps, c'est la chose que l'on peut, sans arrière-pensée, tuer. Ça renvoie un peu à la vieille logique américaine qui est complètement paradoxale, qu'on ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime. On ne peut pas tuer quelqu'un deux fois. S'il est déjà mort ou si elle est déjà morte, on peut la tuer de nouveau puisque cette nouvelle vie-là est une mauvaise vie, est une vie paradoxale, etc. Donc ça crée une figure parfaite pour les jeux vidéo puisqu'on peut tuer de façon complètement politiquement correcte. Et à la fois, ça permet des films d'une violence extrême sans que l'on ait par ailleurs le sentiment d'être véritablement face à des êtres humains qu'on torturerait ou que l'on brutaliserait, etc.
Et est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il est possible qu'il y ait un aspect religieux parce qu'aux États-Unis, où justement il y a tous ces protestants fondamentalistes, etc., le zombie, c'est une sorte d'abomination religieuse parce que c'est la négation de la seconde venue du Christ et de la résurrection des morts à ce moment-là. Là, Dieu n'a plus rien à y voir.
C'est vrai, mais j'ai l'impression que cette lecture-là, elle est plutôt des années 70. Elle est plutôt, je pense que depuis, entre autres, l'épidémie du sida qui a joué un rôle très important, puisque l'épidémie du sida connotait cette idée d'une épidémie qui pourrait décimer la planète, qui serait liée au sang, etc. Donc, à mon avis, cette idée-là d'une épidémie capable d'emporter l'humanité, ça faisait quand même des dizaines d'années qu'on n'avait pas été confronté à ça. La grippe espagnole, et puis il y avait le sida dans les années 80. Je pense que ça l'a joué beaucoup dans l'imaginaire du zombie, cette idée d'une maladie sourde qui est liée à la pulsion, en tout cas croyait-on à l'époque, hein, la sexualité, la drogue, etc., et qui pourrait décimer l'humanité. Et les gens qui portaient cette maladie-là, en tout cas dans les années 80, et avaient comme une demi-vie, hein, puisque c'était des gens que l'on craignait, c'était des gens dont cette maladie-là nous faisait terriblement peur, c'était des gens dont on avait le sentiment qu'ils étaient coupables de leur maladie, etc. Et à mon avis, ça a joué aussi un rôle dans l'imaginaire du zombie. Donc, je crois que la question religieuse, qui est très présente chez Romero, hein, il y a une phrase très célèbre dans L'aube des morts vivants, où il y a un personnage qui dit « lorsque... l'enfer va être plein, les morts vont marcher sur la terre. » Donc cette idée-là d'une présence, d'un retour des morts était très forte. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt la science, cette idée-là d'une épidémie, d'une crainte globale qui connote davantage l'univers zombie.
Merci. Alors, on voit que en fait, les humains sont prêts à tout pour survivre et que ce qui est peut-être quelque part assez effrayant, c'est que n'importe qui peut devenir un tueur. On le voit par exemple chez vous, Olivier Perru, dans votre BD, Sam, qui à l'origine est un brave type, l'américain, tout ce qu'il y a de plus moyen, et qui se transforme petit à petit au cours des trois albums en un monstre.
C'est vrai que les catastrophes obligent les hommes à évoluer, régresser ou progresser. Et je rajouterais, par rapport à ce que disait Maxime, c'est très intéressant, ou ce que tout le monde disait, les zombies sont rarement les héros de leurs histoires. Et en fait, c'est vachement important, parce que tu disais, et j'avais jamais pensé à ce que tu disais, le fait de les tuer, parce que du coup, ils n'ont pas le droit à la vie et que c'est un crime quasiment légal au niveau juridique. Les zombies sont en fait des éléments de décor. Et on va rarement, alors peut-être que certains auteurs l'ont fait, on va rarement rentrer dans la psyché des zombies. Ils sont là, on s'en fout, et on leur tire dessus, on n'a aucun état d'âme. C'était des humains avant, ils avaient des familles, on ne se pose aucune question, ils sont juste un élément de décor qu'on supprime pour avancer. Et donc cette action, donc, du coup, de tirer en rafale ou de piéger des zombies, fait que les personnages, selon moi, donc des types tout à fait normaux ou des femmes tout à fait normales, sont obligés de commettre des actes horribles et donc, pour moi, régressent dans les gestes parce que rouler sur un zombie, tirer sur un zombie sans se demander si c'était quelqu'un avant, c'est un vrai acte de barbarie, même si c'est pour vivre. Et donc la question en fait de vivre à n'importe quel prix, ils se la posent même pas. Enfin, du coup, ils se la posent, mais ils y répondent très vite. Et moi, par rapport à ce fameux personnage dont vous parliez, la première transformation que j'opère chez lui, c'est que c'était un brave gars qui votait démocrate, qui allait au McDo, qui s'occupait à peu près de sa fille, qui était divorcée, mais qui avait une vie comme tout un chacun. Sa première transformation, elle est physique, c'est-à-dire que quand la fin du monde arrive, il maigrit. Parce que fini les McDo, fini de bouffer n'importe quoi, et le fait de s'affûter, il devient un prédateur pour survivre. Alors, une fois que l'extinction massive est bien entamée, il n'y a plus que quelques groupes d'humains ou quelques humains qui survivent et qui donc sont à la fois proie et prédateur, parce qu'ils doivent fuir les zombies, et en même temps, ils sont obligés de chasser comme des hommes des cavernes pour trouver des coins où s'abriter, des coins où se réchauffer, pour trouver de l'eau, pour trouver comment manger. Et cette dégradation physique, spirituelle et mentale fait que un type qui vendait des photocopieurs avant ou un truc comme ça peut devenir général d'une super armée ou alors un survivant aguerri. Et ses valeurs changent. C'est-à-dire que des choses qu'on n'aurait jamais fait avant, dans ce nouveau monde, c'est permis. Et ça retombe en fait sur ce que tu disais, sur le fait de tuer des gens qui ont... qui n'ont aucune existence et du coup ce geste-là accentue toutes les transformations qui viennent.
Je réagirais peut-être là-dessus parce que dans une certaine mesure, ce que décrivait Alejandro sur, euh, sur son roman et puis ce qu'on connaît, nous, plus habituellement du zombie nord-américain. On sent bien que le zombie, et tu le décrivais aussi très bien, colle à chacune de nos peurs. On est dans une civilisation où on fantasme énormément la fin des temps, où on est dans un rapport où on s'interroge sur qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, etc. Alors qu'on voit le potentiel révolutionnaire du zombie. C'est une figure qu'on a presque oubliée, qui était présente en partie chez Romero, mais c'est comme si ce n'était pas la tangente qu'avait pris le zombie en Amérique du Nord, et c'était une tangente qui était encore très puissante. Il y avait un potentiel du zombie très fort. Et pour moi, c'est hyper intéressant de me rendre compte qu'en miroir, le zombie nous renvoie à chaque fois des images de nos rêves, de nos angoisses, de notre pessimisme peut-être dans notre cas, ou en tout cas de nos interrogations. Et c'est vrai pour tous.
Ben, chez vous aussi, Fabien Clavel, le zombie renvoie quelque part une image terrible, parce qu'on le voit avec votre personnage principal, le narrateur Mathieu Sirois, nonagénaire, qui n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir mourir, et qui finalement on s'aperçoit qu'il est prêt à tout pour gagner encore un petit peu, y compris, alors sans vouloir spoiler une partie du roman, il est quand même prêt à quasiment n'importe quelle abomination.
Oui, mais il n'attendait pas vraiment de mourir, hein. Il le dit d'ailleurs au début, il dit j'ai envie de les faire chier et je vais justement continuer un peu plus longtemps. Il a par exemple pour habitude de cracher sur les personnes qui viennent s'occuper de lui. Il est très content quand il y a des petits nouveaux justement qui ne sont pas habitués, donc il s'approche et là, un gros molard. Et... donc non, le but c'est vraiment de leur en faire baver un maximum parce qu'il est dans l'aigreur, dans le ressentiment continuel. Et effectivement, il est prêt à tout, mais il le dit en gros dès le début, on ne le croit pas forcément, mais il s'en cache pas vraiment. En même temps, donc on ne sait jamais vraiment, c'est-à-dire que j'ai essayé de construire ça comme un doute continuel, c'est-à-dire sur la véracité de ce qu'il raconte, est-ce qu'il est fiable ou pas ? Et aussi sur la figure du zombie, effectivement, c'est-à-dire que c'est un roman de zombie qui commence par la description d'une maison de retraite. Et donc le lecteur comprend très vite que la figure du zombie s'inspire directement des vieux que je présente. Donc on est sans arrêt en train de se dire lequel est le zombie ou pas, qu'il soit méchant ou pas d'ailleurs. Mais donc il y a un aller-retour continuel, c'est-à-dire qu'il y a des moments du roman où on est sûr que c'est les créatures extérieures qui sont les zombies, des moments où on se dit c'est ces vieux qui ressemblent le plus à des zombies, et puis ça change au fur et à mesure. Voilà, mais par rapport à ce qu'on disait effectivement sur le pessimisme, comme moi le roman est quand même organisé autour du vieillissement, et plus du vieillissement individuel qu'au niveau du vieillissement de la société, c'est vraiment un roman sur non pas la fin du monde, parce que c'est pas clair que le monde va disparaître. En fait, il se rend compte qu'il y a un grand mur autour de Paris et on sait pas du tout ce qu'il y a en dehors, la question n'est pas résolue. C'est vraiment sur la fin de ces individus, avec une histoire particulière, etc. Donc c'est la fin de petits microcosmes, quoi. C'est vraiment cette angoisse, elle est autour de cette fin personnelle, et c'est vraiment la crainte de la mort. Maxime en parle dans son livre sur le retour du refoulé, la mort cachée, etc. Et là, tout revient.
Chez vous aussi, Leandro, dans Beraza Chaussettes, on s'aperçoit que finalement... les vrais monstres, ce ne sont pas les zombies, mais ce sont les humains. Je pense en particulier au Saavedra et à toute cette élite, ou soi-disant élite de Beraza Chaussettes, qui est prête à tout pour survivre, jusque dans une apothéose à la fin du roman, où ils sont prêts à raser la ville. Ils préfèrent détruire pour pouvoir survivre.
Creo que también tiene que ver con esa, aunque haya que volver a lo mismo, con lo que pasaba y lo que generaba esa situación de crisis en el momento.
Je pense que cela a à voir, encore une fois, au fait de revenir a cette crise, a cette situation qu'il y avait a ce moment-là.
Porque hay algo casi suicida a veces en la política, quizás que... o por lo menos que se daba en Buenos Aires.
Parce qu'il y a quelque chose de presque suicidaire chez l'élite et la police, et quelque chose qui est particulièrement clair à Buenos Aires.
Que ante la situación que desencadenó en determinada crisis, lo que se intenta como solución es seguir adoptando las mismas medidas que se venían tomando.
Donc cette attitude suicidaire, c'est pas d'envisager une nouvelle solution, mais de continuer à prendre et insister, à prendre les mêmes mesures qui avaient déjà été prises, voire à copier des mesures d'autres pays.
De ver el modo de mantener un sistema que permita mantener los privilegios para un pequeño grupo a costa del peor empobrecimiento y la pauperización de todo el resto.
Donc la recherche là s'organise autour du comment trouver une solution pour que le petit groupe, l'oligarchie, garde le pouvoir au détriment des pauvres, et même si leur pauvreté devient totalement insupportable.
A mí algo que por lo que venía hablando Fabián, algo que me gustó mucho de su novela era
quelque chose dont vient de parler Fabián, que j'ai beaucoup aimé dans son roman.
Es que aun si no hubiera zombies afuera y no hubiera un apocalipsis o un final del mundo, como él decía,
c'est que même s'il n'y avait pas de zombies ou une apocalypse ou une fin du monde comme il le disait,
creo que muestra muy bien cómo terminamos encerrados en un montón de convenciones que nos vemos obligados a sostener para sobrevivir.
Je pense que tu montres très bien comment nous nous retrouvons enfermés dans des conventions que nous sommes obligés d'adopter pour pouvoir survivre.
En personajes con la edad que trata Fabián es más claro en relación a la medicina y a cómo están exigidos a tomar muchísimos cuidados y muchísimos medicamentos.
Avec l'âge qu'ont des personnages, on peut développer davantage l'aspect de la médecine et des médicaments auxquels ils peuvent avoir recours pour traiter ces aspects.
De un modo extremo, pero creo que todos estamos, aún sin el apocalipsis, encerrados en esas convenciones para...
Donc ici, tu le traites d'une manière extrême, mais je crois qu'en dehors de l'apocalypse, nous sommes tous enfermés dans ces aspects de trouver une solution.
Julien Bétan, justement, il me semble aussi, après tout ce qui vient d'être dit, on le voit en particulier au cinéma, souvent les survivants, ils se réfugient dans les symboles de notre société actuelle. Ils vont s'enfermer, ils vont se réfugier dans des centres commerciaux, par exemple, etc. Donc là aussi, est-ce qu'on retrouve cette espèce d'expression de sauvegarder notre société, même condamnée à tout prix?
Oui, même au-delà de la sauvegarde de la société, pour poursuivre un peu ce que disait Maxime, étymologiquement, le monstre, c'est celui que l'on montre, hein, celui qu'on met à l'index, celui qu'on montre du doigt. Le rôle du monstre, le rôle social, anthropologique, c'est de nous rassurer sur notre propre humanité. Si quelque chose est monstrueux, on peut se dire, moi je suis humain à ce moment-là. Et ça vaut pour les monstres fantastiques comme pour les nazis, pour les tueurs en série. C'est une façon de se rassurer, de se faire peur au cinéma, en littérature, et de se rassurer. Et moi, il me semble que de manière exemplaire, le destin du zombie dans l'imaginaire a suivi celui du monstre en général. Au départ, c'est quelque chose qui est très extérieur, très différent de nous. Et moi... Alors c'est vraiment une hypothèse personnelle, mais il me semble qu'au cours du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, plus ça va, plus le monstre se rapproche. Dans les années 50, on avait peur de la cinquième colonne, on avait peur de nos voisins, on avait peur de notre propre famille qui pouvait être manipulée, qui pouvait être transformée alors qu'il avait encore une apparence humaine. Dans les années 60, ça prend d'autres formes. Dans les années 80, 70-80, au cinéma notamment, on a l'avènement d'une horreur viscérale, beaucoup plus brutale, gore, etc., plus frontal graphiquement. Et puis il me semble que c'est comme si l'aspect monstrueux était rentré dans l'humain. On a ensuite, comme le disait Maxime, l'épidémie de sida. Donc là, on est presque à un niveau intracellulaire. C'est suivi par les épidémies de la vache folle, les choses comme ça. Et puis il me semble qu'aujourd'hui, cet infecté qui a remplacé un petit peu le zombie exprime nos peurs, vraiment nos peurs actuelles. Ce qui fait... ce dont on a peur qui pourrait nous déshumaniser, justement, à savoir, ça va, moi, je pense, jusqu'à la manipulation génétique, les nanotechnologies, toutes ces choses qui pourraient venir dans notre corps, via la nourriture aussi, par exemple, nous modifier en profondeur et faire de nous des monstres ou en tout cas quelque chose d'autre qu'un humain. Et on peut même peut-être imaginer, pourquoi pas, que ça évoque dans une certaine mesure une peur de cette post-humanité dont on nous parle quand même beaucoup, sachant aussi que cette infectée, comme le disait Olivier, bah, finalement c'est une espèce dominante par rapport à l'humain. Elle est plus adaptée au sens darwinien et elle pourrait bien nous supplanter. Donc on a à la fois la peur de perdre l'humain tel qu'on le connaît et donc de perdre ses formes sociales, sa civilisation au passage.
Très bien, je vois que l'heure tourne très très vite avec nos intervenants. Alors, il va falloir conclure parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait absolument toujours bien respecter le timing. Mais en conclusion, j'aurais quand même une question à vous poser à tous les cinq. C'est est-ce que finalement, on ne peut pas dire qu'à travers les zombies, et le fait qu'il y a quand même toujours des survivants de manière plus ou moins difficile. Mais est-ce que je ne peux pas dire que paradoxalement, finalement, la zombification, ce n'est pas en même temps porteur d'un message d'espoir, c'est-à-dire l'humanité survivra quand même à tout. Messieurs.
Oui, je suis d'accord. non, voilà. Allez, je vais en faire deux ou trois de plus. Oui, je suis d'accord avec ça. Le zombie, en fait, c'est peut-être que je me trompe, mais c'est comme une première étape, la première étape d'une révolution. Et ça veut dire qu'on fait un peu table rase du passé, qu'on, comme tu disais très bien, le zombie est en fait un reflet de ce qu'est l'être humain et que le monstre, du coup, qu'on montre du doigt, le zombie, c'est nous. Et le fait de zombifier l'humanité et de laisser une poignée de survivants, qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais les meilleures personnes, parce que parfois ce sont les enfoirés qui survivent, en tout cas, ça oblige une partie de l'humanité à serrer les coudes, alors pas dans toutes les histoires, mais à serrer les coudes, à évoluer. Et pour moi, on n'en a pas parlé, mais une dimension hyper importante dans les histoires de zombies, c'est pas toujours adapté, et ça va à l'inverse de ce que tu écris, mais en même temps, je trouve que ça rejoint, c'est les enfants. Parce que dans les histoires de zombies, ce qui compte, c'est les héros, les personnages, jamais les zombies. Et on n'a pas peur des zombies, on a peur pour les personnages. Et on rentre bien dans les histoires de zombies quand les relations entre les personnages sont bien faites. Et souvent, au centre des relations entre les personnages, il y a des enfants. Parce que l'avenir d'un monde de zombies, c'est les gamins. Eux s'adaptent plus vite quand ils ont passé seulement quelques années dans un monde civilisé. Le fait qu'il n'y ait plus de portables, plus de micro-ondes, plus d'avions, plus de trains, plus de voitures, ben, en quelques années, ils vont réussir à faire pousser des choses, à chasser. Et quelque part, la nouvelle humanité passe par un groupe de survivants, pas forcément les meilleures personnes, pour ensuite permettre à des enfants, donc une nouvelle génération, de se dire on doit faire mieux que nos ancêtres. Et donc, c'est vrai que si, d'un point de vue graphique, le zombie est un message abominable, c'est affreux, l'humanité va mourir, va disparaître à cause d'elle-même, il y a régulièrement, je crois, dans les histoires de zombies, un personnage avec une vraie vibration positive, des gamins, et en fait... c'est eux qui sont en fait porteurs du message, voilà, si l'humanité doit survivre, et elle survivra toujours, eh ben ça passera par les gamins.
Alors oui, moi, il n'y a pas tellement de gamins avec mes vieux, et même quand ils ont comme idée éventuellement de repeupler la planète, ils ont du mal, étant donné leur âge. Mais ils essayent quand même, hein, je vous laisse la surprise. Et donc voilà, justement, les gamins sont éliminés, et là où il y a un côté effectivement révolutionnaire dans le zombie, dans la manière dont je l'ai traité, c'est que toute cette génération doit disparaître. En gros, c'est la génération de 68. C'est écrit par moi qui suis un enfant des gens de 68. Et c'est un peu éliminer cette génération pour passer à autre chose. Et donc le roman est aussi un jeu de massacre là-dessus, en dénonçant d'un côté aussi la peur de la mort, c'est-à-dire tant qu'on la rejette et qu'on la cache, ça laisse place à la croyance. Et le bouquin ça s'appuie aussi beaucoup sur la croyance, tout le titre, l'Évangile cannibale, vous aurez remarqué, il y a un lien. Donc en fait tout ça va aller ensemble, c'est-à-dire cette dénonciation de cette croyance qui peut prendre des tas de formes et qui doit en gros être éliminée, et puisque ce que ça montre, c'est qu'on est encore une fois dans une répétition, c'est-à-dire que la réaction face à l'invasion zombie, c'est de faire un nouvel évangile, c'est de refaire Adam et Ève et tout, et ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que ça marche pas. Il faut trouver d'autres solutions, et ces solutions, elles seront pas trouvées par ces vieillards à l'agonie. Elles sont trouvées par d'autres gens, mais ils ne sont pas dans ce livre-là.
Sí, yo también encuentro el optimismo en ese nuevo comienzo que al que nos obligan los zombies.
Donc moi aussi je vois quelque chose de positif dans ce recommencement auquel nous poussent les zombies.
Como posibilidad de escape de un sistema político de convenciones sociales y de la cultura por la que uno está condicionado.
Comme un échappatoire face à la situation politique, aux conditions sociales, aux obligations sociales et au conditionnement de la société.
Julia Bétan.
Sur le zombie comme espoir de l'humanité, enfin sur comme révélateur, moi je suis peut-être un peu moins optimiste dans le sens où il me semble que si on prend en tout cas le phénomène nord-américain, il y a une tendance inquiétante à la récupération du zombie par tout le mouvement survivaliste américain actuellement, hors fiction, là, dans ce cas-là, où on a tous ces gens qui se préparaient à l'apocalypse nucléaire, à la guerre, etc., et qui maintenant, pour s'entraîner, et même au niveau des agences fédérales gouvernementales américaines, le CDC par exemple, où on en... Pour entraîner les gens à survivre, on simule des épidémies zombies. Leandro, et vous évoquez, plusieurs d'entre vous évoquez la dimension révolutionnaire de la fiction zombie. Moi, il me semble que malheureusement, elle a été récupérée par l'autre camp. C'est-à-dire que la tendance actuelle serait plutôt à considérer le zombie comme on peut, dans la vie réelle, considérer le terroriste en tant qu'image générique, c'est-à-dire ce qui justifie le renforcement de l'ordre établi, voire son durcissement.
Maxime Coulombe, alors la philosophie, finalement, du zombie.
Mais je trouvais très intéressant ce qui vient d'être dit. Je crois que... on a beaucoup de peine à imaginer un autre futur pour l'homme que la destruction de l'humanité. Je pense qu'il y a une certaine forme de pessimisme malgré tout que de devoir compter sur le zombie pour aspirer à une transformation. C'est Slavoj Žižek, un philosophe slovène, qui disait, il n'était pas le seul d'ailleurs, que une des seules façons que l'on a désormais d'imaginer le futur, c'est par sa destruction. On a beaucoup de peine à imaginer une autre façon de concevoir l'humanité que par sa destruction. J'habite à Montréal, vous l'avez sans doute entendu, et on m'a approché il y a un an et demi maintenant pour organiser une de ces activités. Le service de santé de la ville de Laval, qui est une ville assez importante au nord de Montréal, souhaitait, pour la prévention, etc., organiser une simulation zombie, alors avec tous les hauts gradés du système de santé de la ville de Laval et puis les premiers intervenants, etc. Ils voulaient recréer une sorte d'attaque de zombie pour voir comment est-ce qu'ils seraient capables de s'en prémunir et tout ça. Et puis, personnellement, j'ai refusé d'y prendre part parce que, d'abord, j'avais rien à y faire. Je suis malheureusement juste un type qui réfléchit sur les zombies. J'ai pas de connaissances particulières sur la santé, les services sociaux, les premières interventions. Mais je m'inquiétais un peu parce que, effectivement, il y a toute une récupération de ce motif-là, il y a une intégration de ce motif-là. Et quand un motif est intégré de la sorte, il perd son tranchant, il perd sa capacité révolutionnaire. J'aimerais bien que l'on soit capable de sortir de cette idée-là et que l'on soit capable peut-être d'imaginer une victoire de l'humanité. Non pas simplement la destruction de l'humanité et ensuite sa reconstruction, mais une conception plus, sans aucun doute plus naïve, moins séduisante d'un point de vue de la narration, mais une victoire humaine. Qui nous permettrait de renouer avec une sorte de confiance, en fait. Hein, on a vaincu les vampires, hein, on se rappellera de Bram Stoker, Dracula. L'être humain, traditionnellement, vainc les créatures, le Minotaure, etc. Le zombie, on perd. J'aimerais bien qu'on gagne. J'aimerais bien qu'on soit capable de gagner ce combat-là aussi, parce que ça voudrait dire une sorte de reprise ou une sorte de confiance renouvelée dans notre capacité à changer les choses.
Bien, je crois que nous allons rester sur cette note un peu optimiste. Nous allons tous y travailler et il ne me reste qu'à remercier nos 5 intervenants.